Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Il va être mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste. L'homme qui a blessé deux personnes vendredi devant les anciens locaux de Charlie Hebdo a reconnu sa véritable identité et expliqué ses motivations. Anne Fockenberg nous en dit plus dans un instant. Dans quelques années, il n'y aura plus ni lions ni éléphants dans les cirques itinérants et les delphinariums sont voués à disparaître. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, annonce une série de mesures pour le bien-être de la faune sauvage captive. Explication de Véronique Rebérotte. Les personnes que l'on voit à la télévision ne sont toujours pas représentatives de la population française. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel appelle les chaînes à une remobilisation collective. Réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour évoquer le sort du Nagorno-Karabakh. La Turquie dit vouloir aider l'Azerbaïdjan à recouvrer ses terres occupées. La Russie lui demande de ne pas mettre d'huile sur le feu, analyse de Bertrand Galichi. On en sait maintenant un peu plus sur l'homme qui a grièvement blessé deux salariés de l'agence de presse Première Ligne vendredi à Paris. D'après ses aveux, il a 25 ans et non 18 et une autre identité que celle sous laquelle il se présentait. Anne Fockenberg, vous avez suivi le point fait par le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard. L'homme qui a été interpellé une heure après les faits vendredi va être mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste et association de malfaiteurs terroristes. Que sait-on de lui, Anne ?
Eh bien, si l'assaillant avait initialement déclaré s'appeler Hassan Ali, identité avec laquelle il s'est présenté aux services sociaux en arrivant en France en 2018, il dit maintenant porter le nom de Zaher Hassan Mehmoud et être né en 1995, identité qu'il a reconnue après avoir été confronté à un document retrouvé dans son téléphone, identité qui doit encore être authentifiée auprès du Pakistan. Selon le procureur, il s'était néanmoins déjà présenté sous ce nom dans une vidéo publiée vendredi matin, juste avant l'attaque et dans laquelle il se mettait en scène, explique Jean-François Ricard, le procureur donc du parquet national antiterroriste.
Dans cette vidéo, qui sera également diffusée sur les réseaux sociaux, il s'exprime en ourdou et se présente sous l'identité de Zaher Hassan Mehmoud. Sans aucune précision, il annonce son geste à venir en indiquant « Ici, en France, ils font les caricatures sur notre pur et plus grand bien-aimé prophète. Moi, aujourd'hui, le 25 septembre, je vais aller me révolter contre ça. »
Le suspect qui n'a pas fait allégeance à un groupe terroriste dans cette vidéo, mais il avait prémédité son acte, il a fait plusieurs repérages. Les 18, 22 et 24 septembre, Nicolas Appert, sans savoir que le journal Charlie Hebdo avait déménagé. Il avait acheté le matin même à Saint-Denis le hachoir avec lequel il a frappé ses deux victimes, mais aussi un marteau et des bouteilles de White Spirit. Son projet initial était d'entrer dans les locaux du journal Charlie Hebdo, si nécessaire, à l'aide du marteau et de les incendier, a affirmé Jean-François Ricard.
Merci Anne Fockenberg. Et les cinq dernières personnes de l'entourage du suspect placé en garde à vue ont été remises en liberté sans charge reconnue contre elles à ce stade. Plus d'élevage de visons d'ici 5 ans, plus d'animaux sauvages dans les cirques itinérants, fin de l'introduction et de la reproduction des orques et des dauphins dans les delphinariums. La ministre de la Transition écologique ne précise pas exactement à quelle échéance, mais Barbara Pompili annonce ses mesures pour le bien-être de la faune sauvage captive et précise qu'il y aura un accompagnement des professions concernées. Pour les cirques et les personnels des delphinariums, le gouvernement prévoit une enveloppe de 8 millions d'euros. Ces décisions, la ministre les a présentées comme inévitables. Aujourd'hui, Barbara Pompili.
Notre époque a changé. Elle est celle d'un rapport nouveau à l'animal sauvage. Bien plus qu'une menace ou qu'une proie, il est désormais avant tout, et c'est ma conviction profonde, un être à préserver et à respecter dans son intégrité. Cette évolution des perceptions, c'est la marque d'une civilisation mature.
Bonsoir Véronique Rebérotte.
Bonsoir.
Vous avez suivi les annonces de la ministre de la Transition écologique. Concrètement, ça concerne combien d'animaux ?
Alors quelques 2000 visons par élevage, il en reste 4 en France. La France compte aussi 3 delphinariums, dont le célèbre Maryland d'Antibes, 12 dauphins lui tout seul et 4 orques. Quant aux animaux sauvages dans les cirques itinérants, on avance aujourd'hui un seul chiffre, celui des fauves. Il serait au nombre de 500 dans ces cirques ambulants. Certes enfermés, mais bien soignés, se défend Rémi Bécuve du cirque Arlette Grusse.
Aujourd'hui, on se sent un peu comme des pestiférés, pointés du doigt comme ceux qui ne prennent pas soin de leurs animaux, alors que bien au contraire, le bien-être animal était notre priorité. On regrette que seules les associations de protection animale ont été écoutées, et les cirques, alors qu'on disait qu'on était occupé déjà de faire notre transition de manière progressive. L'État vient de transférer, je pense que c'est pour des raisons surtout électoralistes.
Des solutions vont être trouvées, dit-on au ministère, au cas par cas pour recaser ces animaux sauvages. Pas question, bien sûr, de les lâcher dans la nature, une nature sauvage qu'ils n'ont jamais connue. Il va falloir leur trouver des sanctuaires en Afrique ou en France, dans des zoos hein, surtout, et c'est déjà mieux que des cages, peut-être. Les associations qui se battent, en tout cas depuis des années, auraient préféré qu'on mette fin au calvaire de ces animaux dans les cirques et dans les élevages le plus vite possible. Pour autant, Anissa Putois de l'association PETA, connue pour ses campagnes choc anti-fourrure, est plutôt satisfaite de ces annonces.
Aujourd'hui, ce sont trois avancées majeures en termes de cause animale. Ce sont trois industries contre lesquelles nous faisons campagne depuis de très longues années. Il y a bien sûr des choses à clarifier.
Lesquelles ?
Alors, on a un délai d'application qui est un petit peu long, notamment pour la fourrure. On sait qu'il n'y a plus que 4 élevages de visons pour la fourrure en France. Alors, pourquoi 5 longues années pour les faire fermer ? Et puis également pour les cirques itinérants. Pourquoi ce flou dans ce délai d'application ? On aurait voulu voir quelque chose de plus tranché. On espère que ça va être clarifié dans les jours à venir et que ça concernera tous ces animaux, parce que franchement, la souffrance est la même. On verra la fin de cette exploitation dans ces cirques.
Alors, ces annonces ne font que combler un retard pris par la France dans le domaine du bien-être de la faune sauvage en captivité. Plus d'une vingtaine de pays européens ont déjà limité et même interdit la présentation d'animaux, tout comme dans 400 collectivités en France.
Véronique Rebérotte. Ça n'est pas une surprise. Le déficit de la sécurité sociale devrait atteindre un chiffre record cette année, 44,4 milliards d'euros. C'est même moins grave que ce que l'on a pu redouter avant l'été. La reprise économique s'avérant plus robuste que prévu, mais les quatre branches historiques de la Sécu, santé, retraite, famille, accident du travail se retrouvent dans le rouge et les prévisions pour les années suivantes sont encore très incertaines puisqu'elles dépendent elles aussi de l'évolution de la situation sanitaire. Par ailleurs, la nouveauté de cette année, Anne-Laure Chouin, c'est la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale.
Jusqu'alors, la prise en charge de la vieillesse et du handicap était dispersée entre la sécurité sociale, l'État et les départements. Et l'évolution de son coût n'était pas à proprement parler pilotée. Ce sera le cas, désormais, avec un fonctionnement largement inspiré d'un rapport commandé suite à l'adoption de la loi et remis au gouvernement à la mi-septembre, le rapport Vachet, du nom d'un ancien directeur de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, l'organisme qui désormais sera en charge de cette nouvelle branche. Elle rassemblera toutes les aides aux personnes âgées, aux enfants et aux adultes handicapés, en tout cas pour 2021, car son périmètre est appelé à évoluer. Cela signifie que tous les nouveaux crédits alloués aux établissements médico-sociaux comme les EHPAD entre dans son champ d'action. Son financement, ce sera l'argent qui était déjà alloué à la caisse autonomie, plus les dépenses prévues par le Ségur de la santé pour les EHPAD, plus une fraction de la CSG, la contribution sociale généralisée, 0,15%, en l'occurrence, soit 2,3 milliards d'euros. C'est moitié moins que ce que préconise le Haut Conseil au financement de la protection sociale. Mais bientôt sera votée au Parlement la loi Grand âge et autonomie, avec des mesures susceptibles de venir abonder ce nouveau champ de l'action sociale.
Le plan de restructuration de Renault rejeté par les syndicats CFE-CGC, CFDT, CGT et Force ouvrière ont rendu un avis défavorable sur ce plan destiné à restaurer la compétitivité du groupe automobile et à assurer son développement sur le long terme. Renault prévoit plus de 2 milliards d'euros d'économies sur 3 ans et 15 000 suppressions d'emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Écoutez le délégué CFDT, Franck Daoud.
Aujourd'hui, ce plan, il évolue tous les jours. Ce qui veut dire, par exemple, que dans le manufacturing, dans les usines, on en est au même point qu'au mois de mars quand il a été dévoilé par Monsieur Senard. C'est-à-dire qu'on n'a pas avancé d'un iota, pas d'un pouce. Bon, il y a toujours dans la balance, pour le manufacturing, 2100 emplois qui devraient être supprimés d'ici 3 ans. Mais bon, on sait par ailleurs que ces départs devraient s'effectuer de manière plutôt naturelle. C'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est dans l'ingénierie, où globalement l'annonce de 1300 suppressions d'emplois, c'est inquiétant pour la perte de compétences, c'est inquiétant pour la charge de travail, mais c'est également inquiétant parce qu'il va y avoir une baisse de la sous-traitance, et nous, le calcul qu'on a fait et l'expertise qu'on a demandé au niveau du CCE qui a rendu sa copie, l'estimation qu'on fait Renault plus prestataire, c'est la disparition programmée d'environ 7000 postes en France sous 3 ans, avec les conséquences que ça a sur la charge de travail, la perte de compétences ou la capacité à répondre aux futurs projets automobiles.
Franck Daoud, délégué CFDT chez Renault, joint par Hakim Kasmi. Précisons que l'avis des syndicats n'est que consultatif. Le nouveau directeur général de Renault bénéficie du soutien total de son principal actionnaire, l'État français. Le nouveau duo à la tête de l'Académie des Césars promet des réformes. Véronique Kella, la nouvelle présidente, et Éric Toledano, le nouveau vice-président, ont été élus ce matin par l'Assemblée générale qui a également procédé à l'élection du conseil d'administration. Il s'agit maintenant de sortir les Césars de la crise historique que l'association traverse. Bonsoir Anne Lamotte.
Bonsoir.
Dans son discours, Véronique Kella a dit vouloir mettre en œuvre la parité et la diversité, mais pas un mot pour l'instant concernant les membres historiques comme Roman Polanski, dont la présence est dénoncée par des féministes.
En effet, Véronique Kella ne cite pas Roman Polanski dans son discours de ce matin, premier discours en tant que présidente de l'Académie des Césars. Elle ne parle pas non plus explicitement des 17 autres membres historiques maintenus au sein de l'Assemblée Générale, d'où la rage, par exemple, du collectif Nous Toutes qui tweet « Revoyez le casting », hashtag « Clap de fin Polanski ». Mais Véronique Kella dit aussi dans ce discours que tous ensemble, ils vont pouvoir, je la cite, « inventer un nouveau modèle pour les Césars ». Elle a bien compris, affirme-t-elle, les exigences de l'Assemblée générale, parité, transparence, diversité, démocratie. Et qui dit démocratie dit élection. Or, parmi les 180 membres de cette Assemblée générale, 18 n'ont pas été élus, les fameux membres historiques maintenus, dont Roman Polanski, oscarisé en 2003 avec Le Pianiste. On rappelle que c'est toujours inscrit dans les statuts de l'Académie des Césars. Si vous gagnez un Oscar à Hollywood, vous faites de fait partie des nôtres. Donc, Véronique Kella n'annonce pas dans ce discours, fini, on va réécrire ces statuts, exit tous les membres historiques, mais elle dit tout de même son attachement à ce principe de démocratie et écrit, la cite toujours, que seule l'élection donne la légitimité nécessaire à la réussite. Elle ajoute que des groupes de travail vont être organisés pour canaliser les réflexions et les rendre opérationnelles au plus vite. Réflexion peut-être sur les statuts donc, mais aussi sur la cérémonie des Césars prévue le 26 février. Il la faut notamment nouvelle et adaptée au Covid. Du pain sur la planche donc, mais dans l'apaisement, s'il vous plaît, souhaite Éric Toledano, nouveau vice-président de l'Académie aux côtés de Véronique Kella. Après la polémique, le réalisateur espère, conclut-il, de la joie et du calme.
Anne Lamotte. La représentation de la diversité dans les programmes de télévision marque le pas. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie son dernier baromètre, outil de mesure qui permet depuis une dizaine d'années d'obtenir une perception objective de la diversité sur le petit écran. Il en ressort que les personnes vivant dans les grands ensembles de banlieues populaires sont très peu représentées, 7%, et les territoires ultramarins où habitent 3% de la population ne sont incarnés que par 0,4% des personnes à la télévision. Benoît Grossin.
Rien ne change pour le président du Conseil représentatif des Français d'outre-mer, Daniel Dalin. Le baromètre du CSA va dans la continuité de ce qu'il ne cesse de dénoncer depuis des années, une volonté manifeste selon lui d'invisibilisation, malgré l'adoption en juillet 2019 d'un pacte de visibilité signé par la présidente de France Télévisions, Delphine Arnault, et les ministres de la Culture et de l'Outre-mer.
Moi je dis que le pacte de visibilité, c'est de l'enfumage. Et surtout, cette espèce d'entre-soi qui se passe au CSA via France Télévisions, où les gens se passent les postes entre eux. Par exemple, nous avons 46 présentateurs TV. Et bien, sur les 46, il y a qui ? Il y a Patricia Loison, Harry Rosenmack, Johanna Giglia et Régis. Nous avons écrit au CSA, nous avons écrit à Mme Delphine Arnault, le projet qu'elle a mis en place, qu'elle a présenté comme quelque chose qui allait donner plus d'outre-mer à France Télévisions ne tient pas la route.
Et pour Daniel Dalin, après la suppression de Franço, la visibilité des Outre-mer doit plus que jamais passer par la nomination de spécialistes à des postes de responsabilité.
En fermant Franço, on ne peut pas mettre plus d'Outre-mer dans quelque chose qui ne mettait pas déjà des Outre-mer, qui n'ont pas le réflexe Outre-mer. On sait très bien que ça ne marche pas. Si vous voulez vraiment changer les choses, il faut nommer des ultramarins qui, eux, peuvent être les garants de la représentation des Outre-mer sur le portail de France Télévisions. Si on veut parler d'outre-mer, mettez des gens qui sont spécialistes de l'outre-mer aux commandes.
Et pour mieux se faire entendre, le Conseil représentatif des Français d'outre-mer compte agiter le bulletin de vote à l'approche de la présidentielle. Daniel Dalin promet de faire fonctionner tous ses réseaux pour sanctionner les candidats qui ne respecteraient pas l'outre-mer.
La tension continue de monter autour du Nagorno-Karabakh. L'Arménie a affirmé aujourd'hui que la Turquie avait abattu un de ses avions militaires. Ankara dément, mais se dit déterminée à aider l'Azerbaïdjan, car pour la Turquie, c'est l'Arménie qui occupe indûment la région. Une réunion d'urgence à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir aujourd'hui sur le Nagorno-Karabakh à la demande de pays européens. Et la Russie essaye de calmer le jeu, Bertrand Galichet.
Oui, même si la Russie a clairement choisi son camp en demandant à la Turquie de ne pas jeter de l'huile sur le feu, donc de ne pas soutenir militairement l'Azerbaïdjan, le Kremlin n'a aucun intérêt à la poursuite des combats entre les deux anciennes républiques soviétiques. L'Arménie chrétienne et l'Azerbaïdjan musulman partagent une longue histoire commune et des relations de proximité avec la Russie. Moscou continue de jouer les arbitres dans la région depuis la fin de l'Union soviétique, avec toutefois un penchant pour les Arméniens, notamment pour des raisons culturelles et religieuses. L'Arménie appartient à une alliance militaire dominée par la Russie, mais la raison de fond qui embarrasse le Kremlin, c'est le rôle de la Turquie dans cette affaire, puisque Ankara affiche sa détermination à appuyer l'Azerbaïdjan pour reconquérir le Nagorno-Karabakh, cette enclave séparatiste peuplée essentiellement d'Arméniens. Or, les Russes ne peuvent s'offrir le luxe d'une crise ouverte avec les Turcs, même sur un territoire étranger, pour deux raisons principales. Moscou veut conserver de bonnes relations avec le président Erdogan, afin de gérer la sortie de guerre en Syrie. Et puis surtout, le Kremlin tient dans sa manche un atout majeur, l'appartenance de la Turquie à l'OTAN, devenue une épine dans le pied de l'Alliance Atlantique. Pour la Russie, qui a vendu aux Turcs des missiles anti-aériens S-400, conserver une proximité avec Ankara est essentiel. La guerre Arménie-Azerbaïdjan n'est sans doute pas assez importante aux yeux de Vladimir Poutine pour se fâcher avec la Turquie.
La Russie, au cœur du déplacement d'Emmanuel Macron dans les Pays-Baltes. Le chef de l'État vient d'arriver à Riga, la capitale lettonne. Il était auparavant en Lituanie. Il a visité la base militaire de Rokla, où 300 soldats français participent à la présence renforcée de l'OTAN dans la région. Une présence hautement symbolique dans ce confin européen, historiquement méfiant vis-à-vis du puissant voisin russe, Louise Baudet.
Rukla, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Vilnius. Ici stationnent 2400 soldats belges, norvégiens, néerlandais, islandais ou tchèques. Bataillon multinational sous commandement allemand déployé dans le cadre de la présence renforcée de l'OTAN. L'adjudant-chef Alexandre du 5e régiment de dragons de la compagnie d'appui de Mailly-le-Camp dans l'Aube est arrivé à Rukla le 3 juillet pour une mission de 6 mois.
À quoi vous servez concrètement ? La dissuasion ?
Oui, la dissuasion, oui, la présence par la dissuasion. Nous sommes là, nous montrons nos capacités en hommes et les capacités en matériel présents sur le territoire.
À l'origine du déploiement de cette présence renforcée de l'OTAN, l'annexion en 2014 de la Crimée par la Russie, ce puissant voisin dont les Pays-Baltes craignent l'hégémonie. La présence ici de 300 soldats français est donc un signal fort adressé à Vilnius, Riga et Tallinn, rappelle le président français.
Vous nous permettez de démontrer l'engagement de la France pour la sécurité des Européens. À ses frontières de notre Europe, les risques sont grands. L'actualité le montre encore, si besoin était. Et votre présence est la démonstration de notre engagement.
Et c'est une nouvelle fois la question russe qui s'impose dans ce déplacement présidentiel. Après la rencontre ce matin entre Emmanuel Macron et l'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaya, le président français a réaffirmé son objectif, œuvrer pour une transition pacifique à Minsk et donc pour une médiation impliquant la Russie. Ou comment donner des gages à l'opposition biélorusse tout en continuant à dialoguer avec Moscou. Dialogue au point mort. À la mi-journée, Vladimir Poutine a dénoncé les pressions extérieures sans précédent sur la Biélorussie. Preuve que le dossier est explosif et l'attitude du Kremlin imprévisible.
La Grèce était jusque-là relativement épargnée par la crise sanitaire du Covid-19. Elle a donc décidé de rouvrir ses frontières aux touristes, un secteur qui entre pour plus de 25% dans le PIB du pays et qui emploie près d'un actif sur cinq. Alors est-ce que c'était une décision précipitée? En tout cas, le premier bateau de croisière à revenir en Grèce depuis le confinement transportait des passagers positifs au coronavirus et Athènes s'inquiète, Angélique Couronis.
Contre l'avis des spécialistes, Athènes a décidé d'ouvrir 5 ports du pays aux croisières dès la mi-août pour tenter de sauver l'arrière-saison. La condition était que tous les voyageurs puissent présenter à leur arrivée un test Covid négatif de moins de 72 heures. La même exigence n'était pas valable pour les membres du personnel. Résultat, sur les 666 employés du paquebot de croisière d'intérêt allemand, plusieurs dizaines se sont révélés positifs au test lors d'un contrôle de routine. Le navire qui se rendait dans les Cyclades a été redirigé sur la Crète pour approfondir approfondir les contrôles médicaux, mais ce qui inquiète les autorités grecques et allemandes, c'est que ce bateau en était à sa troisième rotation. 700 premiers voyageurs qui sont entrés en contact avec le personnel infecté sont déjà rentrés en Allemagne la semaine dernière. Ils ont été remplacés cette semaine par 922 autres voyageurs soumis actuellement à des tests supplémentaires. Ce que les autorités sanitaires grecques redoutent, c'est une éventuelle contamination des proches de ces voyageurs une fois rentrés en Allemagne. Mais ce qui pose problème, c'est que jusqu'à présent, personne ne comprend comment le personnel a pu être infecté vu qu'il n'a pas été autorisé à descendre à terre, justement pour des raisons de sécurité. La Grèce avait été relativement épargnée au début de l'épidémie, mais elle a baissé la garde en juin dernier pour attirer les touristes et limiter la récession de plus de 8% qui s'installe. Mais les cas de contamination désormais se multiplient et augmentent tous les jours, de même que les morts et les personnes intubées. Indice qui ne trompe pas, 880 écoles sont occupées par des élèves qui refusent d'aller en cours tant que les classes de plus de 27 élèves ne seront pas allégées. Depuis la rentrée, plus de 10 écoles ont fermé pour cause de contamination au Covid.
Demain mercredi, le temps restera très nuageux et humide de la Bretagne et des Pays de la Loire à la frontière belge. Soleil, en revanche, sur le sud-est. Le matin, les températures iront de 4 à 17 degrés. L'après-midi, il fera 16 à 23 du nord au sud jusqu'à 25 en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.